Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des moments dans la vie où l'on cale, où l'on est dos au mur, où la vie ressemble à un brouillard épais. C'est peut-être le fil rouge des trois films de notre sélection de ce mois, et c'est probablement l'un des grands ressorts du cinéma, montrer, comme les arts en général, l'envers du décor, ce que l'on vit de l'intérieur, la petite voix qui parle en nous, une voix de la conscience et pourquoi pas, celle des anges. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, notre rendez-vous cinéma. Et avec nous, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, co-animateur du Ciné-Parole au cinéma L'ABC. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima vous a encore fait faux bond ce mois-ci. On va dire qu'on lui trouve encore une excuse, mais la fois prochaine, on prendra les mesures qui conviennent.
Nécessaire.
Aujourd'hui, trois films, le film à l'affiche, Alice et le maire. Le ciné-parole était cette semaine, vous avez eu la courtoisie de déplacer l'émission puisqu'il y avait eu un grand événement dans ma vie, comme le savent les auditeurs, puisqu'on raconte ma vie à l'antenne, n'est-ce pas ? Notre chef-d'œuvre.
Il fallait bien que son papa soit avec Samuel.
Voilà, notre chef-d'œuvre humaniste du mois, c'est donc Les ailes du désir de Wim Wenders. Et le chef-d'œuvre spirituel, c'est Le dialogue des carmélites. Mais je vais vous laisser donner le nom des deux réalisateurs, parce que j'avoue que là, j'ai du mal.
Oui, parce que ce sont des réalisateurs qu'on connaît peu, Philippe Agostini et Raymond Léopold Brugberger, qui était en fait un prêtre.
Alors, on y reviendra. On va commencer avec ce premier film, Alice et le maire. Donc, c'est un film de Nicolas Pariset. Vous le commentiez en fin d'émission, puisque je rappelle Ciné-Parole. Allez, on refait un petit coup de pub. Ciné-Parole, c'est un ciné-club au cinéma L'ABC à Toulouse. Et puis, lors de séances, on va dire une fois par mois, vous prenez le temps l'après-midi puis le soir avec les spectateurs de parler du film pour essayer de comprendre et d'intérioriser ce qu'ils ont vu. Alice et le maire, c'était donc le film du Ciné-Parole de cette semaine avec, entre autres, comme star, hein, Fabrice Luchini. On écoute la bande-annonce.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien ? Quoi ?
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression.
Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend.
Non, on ne nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que... Il remplace et il annule l'autre discours. Ok ?
Ok. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale ? Il y a même une pétition qui circule.
Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Eman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes.
L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nouveau arrêter de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice.
Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
La bande-annonce donc d'Alice et le maire de Nicolas Pariset. On va écouter d'autres extraits. On va profiter du fait qu'on ait un petit peu plus de temps pour ça, puisque Paul Dima n'est pas là. Ce film vous a plu. Et puis vous me disiez qu'au Ciné-Parole de cette semaine, il y avait beaucoup de monde.
Oui, c'est un film qui,
Qui marche bien.
Qui plaît beaucoup. Oui, puisque la séance de ciné-parole est étiquetée comme telle, mais des gens peuvent venir assister à la séance sans savoir ce qui va se passer à la fin de la séance, bien sûr. Et le film a vraiment beaucoup de succès. Oui, c'est le traitement, le sujet, les deux acteurs, Fabrice Luchini et Anaïs de Moustier, qui sont parfaits, et la façon dont Nicolas Pariset a tourné son film et a montré ce qu'il avait envie de montrer.
Il vous a plu ?
Oui.
J'avais souvenir d'une chronique aussi que vous avez fait pour la matinale. Expliquez-nous pourquoi il vous a plu, peut-être ?
Bien, c'est à la fois le ton. Il faut bien avouer quand même que des films dont le sujet est politique, il y en a de peu. Hein, l'essentiel, il y en a eu un il y a quelques temps, de 2 ou 3 ans, l'exercice du pouvoir qui était de l'État, qui était remarquable. Et celui-ci est intéressant parce que, justement, c'est la confrontation de 2 mondes et de 2 façons de penser, 2 idées. À la fois un homme politique et un intellectuel. Mais pas n'importe quel homme politique. Hein. Parizet l'a bien souligné. Ce qu'il voulait, c'est montrer un chef de l'exécutif, un politique qui prend des décisions. Choisir un maire, c'est ce qu'il fallait.
C'est le maire de Lyon, donc.
C'est le maire d'une grande ville, oui. Donc, c'est un personnage important. Il y a tout ce qui va avec lui, une équipe, son cabinet. Les lieux aussi sont importants. C'est une belle mairie, une grande mairie qui est un beau bâtiment architectural. On est un peu sous les ors de la République. Il y a la ville aussi qui est importante. Parizet montre bien la ville dans son film, qui est aussi un personnage. Et donc la confrontation de cet homme politique qui doit prendre des décisions et de cet intellectuel, parce que c'est ça, c'est 2 mondes qui se découvrent, en fait.
Alors on va passer un extrait de ces 2 mondes qui apprennent à se découvrir, qui fera écho à la bande-annonce. C'est quand cet homme politique, Paul Terrano, en l'occurrence, maire de Lyon, joué par Fabrice Lucchini, fait cette confidence à cette brillante philosophe Alice Heyman dans le film, joué par Anaïs de Moustier, de la copie blanche qu'il a en permanence dans le cerveau.
Oui. Vous voulez que je vous le dédicace ?
Non, j'étais en train de le lire.
Eh ben, vous me raconterez, parce que moi, je l'ai lu en diagonale entre 2 trains. Donc, vous êtes la philosophe ?
Je sais pas. Enfin, non, je suis pas du tout philosophe.
Ah, d'accord. Vous êtes pas philosophe ?
Je suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à l'étranger, notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques.
Non, vous vous y connaissez un peu, alors ?
Oui, c'est ça. Un petit peu.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord ? J'arrive plus à penser. Plus du tout. Alors, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, pas vraiment.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes socialiste, vous êtes le maire de Lyon.
Oui, voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales, j'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil, hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections, j'ai mené des équipes, j'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées.
Voilà, il n'a plus d'idées. Vous dites que c'est la confrontation de 2 mondes. Ça veut dire quoi, Louis-Marie ? Ils se défient l'un de l'autre ?
Non, ils ne se défient pas. C'est-à-dire qu'on l'a bien entendu dans l'extrait, c'est la première rencontre entre Alice et le maire. Il a besoin qu'on l'aide. Hein. On comprend dans son discours qu'il a besoin qu'on l'aide. Donc elle est intriguée parce qu'elle se demande ce qu'elle doit faire, en fait. Pourquoi elle a été embauchée ? Et lui expose, il lui dit « j'ai plus d'idées, j'avais une idée toutes les secondes et maintenant j'en ai plus. Donc il faut que vous fassiez remarcher la machine. » Et ce qui plaît au spectateur, justement, c'est ces joutes verbales, ces joutes rhétoriques qu'on attend avec beaucoup d'impatience, parce que quand ils sont l'un en face de l'autre, ils se parlent, il n'y a aucune agressivité, ni de la part de l'un, ni de la part de l'autre. C'est 2 mondes qui se confrontent et qui parlent sur le plan des idées. Hein, elle dit, on l'a entendu dans la bande-annonce, mais vous ne semblez pas que vous n'avez plus rien à faire. Quoi. C'est fini. Donc vous n'avez plus rien à faire. Et lui, il lui dit, non, j'ai encore des choses à faire. Parce qu'il est convaincu quand même. C'est un homme politique, il le dit. Il s'en défend d'ailleurs en disant que c'est le l'argument qu'on avance, que l'homme politique, que le politique avance toujours, c'est que c'est une vocation. Et il dit, oui, moi, c'était une vocation. D'ailleurs, on fait que ça. Et il lui expliquera plus tard que bah, il a sacrifié sa vie privée et son mariage pour continuer à faire de la politique.
Alors, j'ai cru comprendre que chacun se rapproche l'un de l'autre et que, au fur et à mesure, leur certitude vacille ou leur préjugé, c'est ça ?
Oui, leur certitude vacille. C'est incontestable. D'ailleurs, là aussi, dans la bande-annonce, on l'entend quand il y a les réunions du matin avec toutes les personnes qui composent son cabinet, sa directrice de cabinet et les autres. Et elle, à un moment, il leur dit « Bon, ben, arrêtez de prendre des notes, je ne fais pas un cours sur Spinoza. » Ça y est, il change. La politique, c'est on prend des notes et il faut prendre des décisions. Puis finalement, on se rend compte que le mécanisme de fonctionnement d'une mairie, en fait, c'est on s'accommode finalement de l'incapacité à ne rien changer. Mais ce qui est important, c'est l'image qu'on va donner, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui va se passer dans les médias. C'est il faut composer avec tout ça et il faut être capable de retomber sur ses jambes.
Alors on va écouter un deuxième extrait, c'est justement un passage où on touche du doigt, on va dire, le jeu qu'il y a entre la communication, enfin le jeu, peut-être là parfois l'absence de jeu entre la communication et puis la réflexion.
Tu sais, en fait, ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie.
Un scandale ?
Bah c'est compliqué, hein. C'est un bureau qui est traditionnellement attribué à un membre du cabinet qui a un poste beaucoup plus élevé que le tien. Il y a même une pétition qui circule pour demander à Isabelle que tu retournes dans ton ancien bureau.
Mais moi, je m'en fous du bureau, moi.
Ouais, bah, eux, pas.
C'est n'importe quoi.
En plus, la com est furieuse contre toi. Ils disent que c'est à eux de piloter le comité Lyon 2500.
Mais qu'est-ce qui te raconte ça ?
Il y a même un mémo qui a été envoyé à Isabelle.
Il dit quoi, le mémo ?
Bah, en gros, que t'es pas la bonne personne pour mener Lyon 2500, qu'il faut faire appel à des pros de la com, de l'événementiel, que ça sert à rien de confier le comité de réflexion à une intello, tout ça.
Tout ça pour un truc qui n'a même pas encore commencé.
Voilà, il y a d'autres extraits. Il y en avait un autre que j'ai en tête où elle est invitée à une réunion et puis le maire a fait une déclaration qui n'est pas passée dans la presse, on va dire, qui a fait grand bruit. Il faut tout de suite trouver une stratégie de communication et en 140 mots arriver à donner un message percutant qui change son image.
Oui.
Et elle a un peu les bras qui lui en tombent. Je ne sais pas, c'est d'où sa mère sur la politique ou au contraire ça réhabilite indirectement l'homme politique, le mari?
C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas facile. C'est pas facile. On navigue à vue, en fait, quand on fait de la politique. C'est ça qu'on comprend entre les images, dans la façon dont ce que montre Nicolas Parizet dans son film. C'est ça. Hein. Il faut retourner l'opinion parce qu'il y a une déclaration du maire qui peut être mal comprise. C'est à propos de l'écologie qu'il faut faire attention. Il faut bien sauvegarder la planète, mais quand même, il faut sauvegarder les emplois. Vous voyez, c'est difficile. On va à droite, on va à gauche. Et puis, on sait très bien, ils savent très bien que cette branche, ceux qui sont chargés de la com, dans ce cabinet particulièrement, spécifiquement, qui doit faire en sorte que l'image du maire soit toujours la meilleure, peu importe ce qu'on a à dire, il faut que ça soit, ça marque, ça tape, et qu'on interprète pas mal ce que dit le maire.
Et que ça soit court.
Exactement.
Pour finir, un mot de la prestation de Fabrice Lucchini. Voilà, c'est vrai que ne serait-ce que les auditeurs auront compris que j'ai pas vu le film, hein, mais le peu que j'ai vu, on a envie d'y aller presque que pour ça, non ?
Pour lui et aussi pour Anaïs de Moustier.
Alors Anaïs de Moustier, allez, on va lui voter la vedette. Parlez-nous de cette actrice.
Qui est remarquable. Ils sont remarquables tous les deux. Il est posé, calme. Vous savez, on parle toujours de Lucchini dans ses envolées lyriques. Mais en fait, ses envolées lyriques, il ne les a pas quand il interprète un rôle. Et en l'occurrence, celui-là. Il les a souvent quand on l'invite dans une émission à la télévision, parce qu'il est là pour faire le show. Mais après, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et il le fait bien. Et Anaïs de Moustier est parfaite. Et je vous parlais des rhétorique, quand ils sont ensemble, on prend un plaisir sans mélange à ces moments où ils se parlent. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a quelque chose d'intellectuel et les deux, vous l'avez dit, bougent. Le politique se rend compte quand même que même s'il se défend de faire de la politique de façon honnête, de temps en temps, il prend des décisions qui sont un peu de travers. Comme elle ne va pas avoir un discours monolithique comme certains de ses amis qui lui disent bah, « tu travailles avec un maire, un politique, mais bon, c'est tout ce... »
T'es une vendue.
Oui, exactement, c'est ça. Et elle a une vision plus... modulée sur cet homme et sur la politique, sur cet homme en particulier qui est assez séduisant, et la politique en général.
Alice et le maire de Nicolas Pariset, on fait une première pause avec un extrait, introduisez-nous la musique qu'on va écouter.
Alors là c'est pour le film dont on va parler maintenant, Les ailes du désir de puisque Manasse. Dans ce film, On va développer le sujet, mais il y a une trapéziste, c'est donc un cirque. Et c'est une des musiques qu'on peut entendre dans le cirque.
Allons-y. Emmanuel Pella. Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, l'émission cinéma du mois, la deuxième de l'année. Et avec, on est content de le retrouver, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, le mercredi à 19h, n'oubliez pas l'ouvreuse. Certains nombres la suivent, mais d'autres devraient la découvrir. Et donc co-animateur de ce ciné-club, ciné-parole, au cinéma l'ABC une fois par mois, avec Paul Dima, qui ce mois-ci se fait encore excuser. Deuxième film, donc, chef-d'œuvre humaniste, c'est comme de la catégorie qu'on a trouvé. C'est un peu compliqué en fait, hein. Catégorie humaniste, faut qu'on trouve un truc mieux. Hein.
C'est compliqué, mais il me semble que celui-là colle parfaitement.
Alors, Les ailes du désir de Wim Wenders, Racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que comme ce film est en allemand et uniquement en allemand, on aura un court extrait de la bande-annonce. Dites-nous cette histoire difficile, non, de raconter l'histoire.
C'est compliqué. Mettons que, vous le savez, il y a des anges autour de nous et des anges qui font attention à ce qui se passe, à ce qui nous arrive.
Ah, vous le savez, certains le savent, mais d'autres en doutent.
Voilà. Et donc, un de ces anges, un jour, puisque le film, en fait, c'est un beau conte, et un de ces anges va renoncer au ciel parce qu'il a envie de comprendre ce que c'est l'amour pour une femme. Voilà, c'est ce que...
On va peut-être pas raconter la suite,
pour aller très vite. Mais en fait, ce qu'on va suivre, ce qui est important aussi, c'est de montrer comment procèdent les anges, ce qu'ils font. Et on n'est pas n'importe où, on est dans le Berlin de la fin des années 80, on est à 2-3 ans de la chute du mur.
Le film est sorti en 1987.
87, oui, vous vous souvenez que c'est en 89 que le mur est tombé. Il y a encore les stigmates, même si on est en 87, les stigmates de la guerre. Il y a cette plaie, ce mur qui sépare Berlin en deux villes différentes, entre deux sociétés complètement différentes. Et là, il y a ces anges qui passent. Et en fait, ils sont un peu comme des enfants, puisque ces anges, ils étaient là à la création du monde et ils ont vu tout se créer au fur et à mesure. Ils ont découvert ce qui arrivait au moment où ça arrivait. Ils sont un peu comme des enfants. C'est exactement ça. C'est l'enfant, donc il ne savait pas ce qu'il y avait, il découvre.
Alors, on va écouter un court extrait de la bande-annonce. J'ai trouvé aussi comme commentaire, donc ce film, c'est un film en noir et blanc, dans une atmosphère mélancolique et fluide, procédé choisi pour représenter le monde insensible tel que le voient les anges. Il y a comme une forme de distance, hein, un peu avec la réalité tout au long du film. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden.
Alors, on va couper là parce que c'est de l'allemand.
C'est l'ange qu'on va suivre, Damiel. On suit plusieurs anges, mais un ange en particulier, celui qui va être ébranlé par le désir, et c'est lui qui parle. Les anges sont souvent en hauteur. On ne les voit pas voler. Ils sont en équilibre au bord des immeubles, toujours habillés de noir, souvent avec une gabardine noire aussi. Et ils ont leurs ailes. On ne les voit pas voler, je le disais, mais... On les voit observer et ils regardent et on les entend penser.
Les anges, donc on les entend penser. Les enfants les voient aussi dans le film.
Les enfants voient les anges.
Donc il y a l'histoire au cœur de cela, donc de cet ange qui s'éprend d'une femme, d'une trapéziste.
D'une trapéziste.
Il y a un autre fil rouge au film où c'est ça et puis après tout est en pointillé.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on montre la vie de ce qui se passe à Berlin, la vie des gens qui vivent à Berlin, et comment cette vie, en fait, est réglée, surveillée, mais observée par les anges. C'est ça qui est important. Et au moment où le film, vous le disiez, est en noir et blanc, et il va y avoir un changement de rythme, et au moment du changement de rythme, dans la dernière partie du film, la couleur apparaît. Et elle apparaît parce que le désir va transformer l'ange, il va l'humaniser, il va devenir un homme.
Puisque l'ange renonce au ciel par amour pour une femme, c'est
exactement
ça ce que dit l'histoire.
C'est ça, pour cet ange en particulier. Mais on voit d'autres anges, mais on suit celui-là. Et puis on va suivre aussi un homme qui est là, il revient à Berlin pour tourner un film. Cet homme, il interprète son propre rôle, c'est un acteur, c'est le fameux Peter Falk. Et d'ailleurs, dans les rues, quand il passe...
Tiens, c'est l'inspecteur Colombo.
Exactement, c'est ça. Ou ils disent, mais c'est Colombo ou pas, il est là. Et en fait, on apprendra... Non, je ne vous le dis pas.
Non, je ne vous le dis pas.
Je ne vous dis pas ce qu'on apprend à propos de l'inspecteur Colombo.
J'aimerais que vous nous parliez aussi de l'interrogation existentielle, en fait, qui traverse ce film. J'ai cru comprendre qu'il y avait une interrogation un peu lancinante qui est comment vivre. comment arriver à trouver, on va dire, quelque chose de suffisamment épais et dense qui transforme l'existence et qui donne à l'existence une forme de puissance, de joie.
Et en fait, le scénario du film a été coécrit par Wim Wenders et Peter Handke. Peter Handke, l'écrivain qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Et on entend aussi, c'est ce qui ponctue le film, un poème que Handke a écrit et qui sert justement d'appui à tout ce qui se passe et à la façon dont se comportent les anges. Alors on entend, alors c'est la traduction française du poème, « Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme, et toutes les âmes étaient une. Lorsque l'enfant était enfant, ce fut le temps des questions suivantes. Pourquoi suis-je moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici? Et pourquoi pas là ?» Voilà. On navigue là-dedans, et à partir de là, on voit quelles sont les questions que vont finir va finir par se poser cet ange.
Autre point peut-être à souligner avant qu'on parle de Wim Wenders, j'ai lu aussi, c'est un film en fait qui interroge sur la question du mal. Vous disiez que dans le Berlin, j'avoue que moi je suis surpris d'entendre ça, que dans le Berlin-Est, dans les années 80, il y avait encore des traces de la Seconde Guerre mondiale. Cette interrogation autour du mystère du mal, comment elle est présente au long du film?
C'est en fait ce qui sauve justement et qui montre le mal est en filigrane, c'est la présence de ces enfants. Et en fait, c'est ce vers quoi Wim Wenders a voulu aller, parce qu'il prend le spectateur par l'oreille justement par rapport au mal. Et puis il faut qu'il soit attentif, le spectateur, il faut qu'il apprenne à voir. Donc il faut qu'il regarde bien le film, c'est ça. Il est comme les enfants, le spectateur, quand il regarde ce film. Il est un enfant qui doit réapprendre à ouvrir les yeux. Il est dans la position des enfants qu'on voit dans le film, le spectateur. Et donc par rapport à ça, on lui montre des choses qui se passent et il faut qu'il arrive à comprendre pourquoi on les montre de cette façon et pourquoi il faut s'en dégager et pourquoi il faut garder son âme d'enfant, parce que eux seuls sont capables de voir les anges. Si on est comme les enfants, on verra les anges.
D'où l'expression, et c'est le jeune papa qui dit ça, le sourire des anges.
Exactement.
Hein, on se demande même parfois s'ils ne voient pas quelque chose qu'on ne voit pas.
C'est, oui, quand
c'est ce qu'on dit des nouveau-nés.
Des nouveau-nés, quand on dit qu'ils sourient aux anges.
Qu'ils sourient aux anges, pardon.
Oui, c'est ça.
Un dernier mot, Wim Wenders, ce grand cinéaste, comment vous pourriez nous le présenter, nous l'introduire pour ceux qui n'en sont pas familiers?
À l'époque, il était déjà célèbre, puisque en 84, 3 ans plus tôt, il avait eu la Palme d'Or à Cannes pour Paris, Texas, un film magnifique. Et bien que ce film soit extraordinaire, Les Ailes du Désir est arrangé dans la catégorie des grands classiques, des grands films, toute nationalité, des grands films mondiaux.
Et, il n'a pas eu la Palme d'Or, parce qu'il y avait d'autres chefs-d'œuvre au même moment. Hein,
et il a eu le prix de la mise en scène, et la même année, en 87, c'est Maurice Pialat, qui adaptait Bernanos, dont on va reparler tout de suite, et sous le soleil de Satan. Et c'est sous le soleil de Satan qu'il y avait la Palme d'Or. Et il a été sélectionné donc en 88 pour représenter l'Allemagne à la cérémonie des Oscars. Vous savez, l'Oscar qui remet un film.
Et le festin de Babette.
C'est le festin de Babette qui l'a obtenu, qui est un grand film aussi. Mais tout lui a échappé.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin, je ne sais pas, c'est une école de cinéma, Wim Wenders, ou c'est un monde en soi?
C'est une grande époque, un grand moment du cinéma allemand. Il n'était pas le seul, mais c'est cette époque où le cinéma allemand a été un des grands cinémas modernes à l'époque. Maintenant, il reprend cette place qui était la sienne, mais à l'époque vraiment il y avait Rainer Werner Fassbinder, il y en avait d'autres encore, et Wenders faisait partie de ces grands cinéastes allemands, et il fait toujours partie, mais beaucoup plus discret maintenant, il fait plutôt des documentaires d'ailleurs.
Voilà, un conte moral sans être moraliste, spirituel sans être peut-être réellement religieux aussi, hein.
Oui, mais on est
liberté, à la frontière,
à la lisière.
Voilà, un film en tout cas un magnifique magnifique film à voir. Wim Wenders, donc Les ailes du désir. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va parler du chef-d'œuvre spirituel du mois, Le dialogue des Carmélites. Et on va commencer par une musique extraite de ce film.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est donc, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, notre rendez-vous cinéma, avec autour du plateau ce mois-ci tout seul Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission de cinéma de Radio Présence, mercredi 19h, et son compère Paul Dima qui nous rejoindra la fois prochaine. Dernier film, chef-d'œuvre spirituel, celui-là je l'ai vu, voilà, je vais quand même être plus confortable à vous interroger en ayant vu le film. On va dire qu'on va mettre ça sur le dos des nuits courtes. Hein. Le dialogue des Carmélites, donc de Philippe Agostini et Raymond Léopold Bruckberger, avec un scénario de Georges Bernanos. On n'a pas de bande-annonce à passer, on se passera un certain nombre d'extraits. C'est donc l'histoire, plus facile pour moi de résumer, du coup, d'un couvent de Carmélites lors de la Révolution française. Il y a deux jeunes filles en personnage un petit peu principaux qui rentrent au Carmel de Compiègne donc au même moment, qui prennent les noms de Blanche, de l'Agonie du Christ et de Sœur Constance. Et ce couvent qui traverse, on va dire, côté clôture, donc la Révolution française, et les Carmélites qui vont finir par être chassés de leur couvent et même donc mourir martyr, être assassinés. C'est les fameuses Carmélites de Compiègne. Hein, aussi.
Oui, celles-là, elles ont 16. Ont été exécutés.
16 ont été exécutés. C'est donc, l'intrigue se passe en 1789. Qu'est-ce que vous rajouteriez, peut-être juste pour poser l'intrigue, avant qu'on écoute quelques premiers passages, Louis-Marie ?
Ben c'est effectivement, on voit ces carmélites qui sont confrontés à la Révolution à la Révolution française, puisqu'on est juste à l'aube, à 1789 quand même, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, c'est pas sorti de nulle part, et elles sont prises dans l'étau des révolutionnaires et vont devoir faire des choix, et en particulier accepter l'un d'entre eux, celui du martyr.
Alors, il y a aussi quelque chose de particulier, et après on passera un premier extrait, c'est un film qui n'est pas d'abord un film historique, mais l'histoire non. est aux portes, on va dire, oui. aux portes du...
Et tourne du, autour du...
Aux
du...
portes du film et aux portes de la clôture, c'est particulier aussi, non de...
Oui, c'est une façon particulière, c'est d'ailleurs ce qu'on a reproché au réalisateur qui... Il faut bien l'avouer, n'ont pas laissé, en particulier Philippe Agostini, qui était le plus réalisateur des deux, n'a pas laissé un grand souvenir de metteur en scène dans le cinéma français.
Est-ce qu'on peut dire un mot aussi du scénario, donc scénario de Georges Bernanos ? Il ne l'avait pas écrit, je crois, au début, pour eux deux, si, ou alors en tout cas, le scénario a été écrit, puis au début, il a été adapté au théâtre, et après, on en a fait un film, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et lui, on a écrit les dialogues. Mais au départ aussi, les deux scénaristes sont les deux réalisateurs, hein, Philippe Agostini et Raymond Léopold Bruckberger. Et d'après Bernanos, et une autre œuvre aussi, celle de Gertrude Lefort. Hein, il faut penser à ce livre, ce roman écrit en 1931, qui a pour trame la répression de l'ordre des carmélites par les révolutionnaires français, et qui accentue d'ailleurs son propos et qui pointe donc la fameuse exécution des carmélites de Compiègne, les 16 carmélites de Compiègne. Voilà. À partir de là, ils ont construit leur scénario et bâti leur film.
Alors, il y a même derrière un compositeur, Francis Poulenc, qui en a fait... on a fait une base pour un opéra qui est du même nom, Dialogue des Carmélites. Bref, c'est un texte qui a vécu.
Oui.
Un des grands intérêts de ce film, c'est justement les textes. On va écouter un premier extrait pour essayer de le situer. C'est donc Blanche de la Force, de son nom de baptême, rentrée en religion et qui a pris le nom de Sœur Blanche de l'Agonie. C'est une des deux jeunes femmes que l'on suit un petit peu et qui se retrouve dans sa cellule au soir, je crois, de ses vœux, et qui, en rentrant, fait face à un crâne. Je ne savais pas qu'à une époque, on avait un crâne d'un mort dans sa cellule pour servir de vanité et vous inviter à penser peut-être aux réalités du ciel. On écoute cet extrait.
Ma fille, la règle est de fermer sa porte.
Ma mère, je crois que je ne serai jamais une bonne carmélite.
Une tête de mort est effrayante pour n'importe qui. On aurait dû vous avertir de la présence de cet objet dans la cellule d'une carmélite.
C'est Dieu qui vous amène ici, ma mère, pour entendre ce que je n'ai pas encore eu le cœur de vous dire. J'ai en moi une horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Petite, je ne pouvais gravir un escalier sans penser qu'il allait s'écrouler. La mort, la vie m'ont toujours effrayée.
Pauvre petite. Vous avez rêvé de cette maison comme un enfant rêve dans sa chambre obscure, à la salle commune, à sa lumière, à sa chaleur. Vous ne savez encore rien de la solitude où une carmélite est exposée à vivre et à mourir.
Ma mère, tout à l'heure j'ai cru que j'étais sincère. Je n'ai sûrement pas voulu mentir à mon père.
Que lui avez-vous dit ?
Que j'étais heureuse.
Le bonheur essayant de n'y plus penser. Notre époux n'est pas le Christ souriant que représentent les images pieuses. C'est le roi des épouvantements dont parlent nos saints.
Voilà, la fin donne pas forcément envie de rentrer en religion. Hein. On se dit que c'était. J'espère que ça n'était pas une époque de la vie religieuse. Ça n'est pas rien ce personnage qui est hanté par la mort. Parce que, alors c'est vrai que quand on est chrétien, on entend parler de ces martyrs, parfois on les cite en exemple, hein, le père Hamel, récemment décédé, assassiné, on dit qu'aujourd'hui il est mort en martyr, puisqu'il serait mort en martyr, l'Église ne l'a pas encore dit, puisqu'il savait bien ce qui se passait lorsqu'il a été assassiné. Bref, on peut avoir une forme d'image idéalisée, et puis là on comprend qu'en fait c'est un long chemin que d'arriver à choisir de donner sa vie pour plus grand que soi. Qu'est-ce que vous diriez en commentaire de cet extrait ?
C'est un point important du film et de ce sur quoi le film est bâti, puisque elle a peur, cette religieuse, et elle va être confrontée à quelque chose qui va lui faire encore plus peur, puisque les révolutionnaires vont venir pour prendre possession du monastère.
Le couvent, pardon.
Le couvent, oui. Et à partir de là, on l'a bien entendu dans ce qu'elle dit à la prieure, elle découvre, quoi, en fait. Alors, elle est confrontée à deux choses. Alors, elle veut aller vers la foi, vers ce pourquoi elle est là. Et puis, elle a peur de la mort, elle a peur de ce qui se passe. Elle a peur d'un peu tout ce qui se passe autour d'elle, et encore plus maintenant de ce qui gronde juste au dehors du couvent. Parce que vous l'avez bien dit.
On voit les
soldats
passer de temps en temps, d'ailleurs.
Ouais, et puis, alors, il y a quelques scènes qui sont assez... Il y a des scènes qui sont un peu lentes, il faut bien avouer, mais il y a une scène qui est remarquable où on voit les carmélites qui cueillent des fruits à un arbre et elles entendent les accents de la Marseillaise. Il faut penser qu'à l'époque, la Marseillaise n'est pas connue. C'était pas encore l'hymne national. Et donc, il y a cette confrontation de deux mondes.
D'ailleurs, elle regarde ça très naïvement, oui, en disant « Oh, mais... » la mère supérieure leur dit mais pourquoi vous avez fait ça ? Oh, bah, j'aime bien les soldats, et puis ils chantaient bien. C'est... Elle regarde ça un peu de manière naïve. Hein,
exactement. Hein, elles le sont.
Elles le sont, pour certaines en tout cas. Il y a un autre personnage dont il faut parler dès maintenant peut-être. C'est Jeanne Moreau, mère Marie de l'Incarnation, mais on y reviendra plus tard. Il y a un certain nombre de mères dans ce couvent.
Bah oui.
Il y a une abbesse, enfin une mère qui se doit être une mère prieure qui décède, puis une autre qui est élue, donc mère Thérèse de Saint-Augustin. On écoute un extrait où elle fait face, elle discute avec le commissaire de la Révolution qui est en lien avec ce couvent. Ça nous plonge dans l'atmosphère de cette époque où les chrétiens et l'Église ont été largement martyrisés.
Je suis heureuse de votre visite, monsieur le commissaire, qui me donne l'occasion de protester directement auprès de vous.
Protester, madame ? Mais pourquoi ?
Parce que vous nous enlevez notre aumônier. C'est ridicule de penser qu'un homme aussi pacifique que lui puisse être considéré comme dangereux et mis hors la loi.
Madame, j'ai bien peur que vous compreniez mal votre propre situation. Et en quel danger vous êtes?
Que faisons-nous de mal?
Je ne suis pas du mal que vous faites. Il s'agit du mal qu'on vous attribue. Vous ne savez pas que les Prussiens marchent sur Verdun. Ils seront peut-être ici dans 2 jours, dans 5 à Paris. Partout on lève en hâte des armées de volontaires, que le peuple se croit trahi. Il voit des suspects partout. Que depuis dimanche, à Paris, on massacre dans les prisons.
Êtes-vous sûr?
Certain. Est-ce que vous avez chez vous une jeune personne qu'on appelle Sœur Anne de Jésus?
Oui. Que lui veut-on?
Elle avait un frère dans l'armée du Rhin. Il a été tué à l'ennemi. On a trouvé sur son corps une lettre pour sa sœur. C'est ainsi que j'ai été prévenu.
Comprendrez-vous enfin, monsieur le commissaire, que nous sommes de bonnes patriotes. Nous voulons la paix et la protection de la loi.
Oh, madame, s'il ne s'agissait que de cela...
Mais de quoi s'agit-il?
Lorsque tout va mal dans le pays, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Alors, pourquoi pas la vôtre?
Voilà, très, très bel extrait qui nous aide à entrevoir ce qui a été vécu pendant la Révolution française. Alors c'est vrai que comme l'histoire est quand même pas toujours enseignée sous ce versant, moi j'ai trouvé qu'une des grandes vertus de ce film, c'est de nous aider à voir l'histoire, on va dire, sous un autre angle, et aussi la Révolution française sous un autre angle, dont on chante quand même largement les louanges dans toutes les classes chez nous. Et on oublie parfois cet autre aspect de la Révolution française. Lui, Marie, vous vouliez commenter ce passage.
Oui, effectivement. Néanmoins, le parti pris des deux réalisateurs est un petit peu caricatural vis-à-vis de la façon de procéder des révolutionnaires. Néanmoins, enfin, malgré tout...
Nombreuses sont les églises en France quand même, oui. Ou les couvents qui ont été détruits ou vidés.
Effectivement. C'est-à-dire que on est passé d'un extrême à un autre. Le peuple opprimé se renverse et désigne un peu tout. Tout est désigné à la vindicte populaire. C'est-à-dire que toi, ça va pas. C'est ce que dit d'ailleurs un autre moment, le commissaire du peuple confronté à la mère Marie de l'Incarnation, qui est incarnée par Jeanne Moreau. Et elle lui tient tête. Et qui lui oppose contre la logique donc, de la communauté et la légitimité de la foi. Il lui dit le nouveau régime de la loi, nouveau entre guillemets, cette maison, en parlant du couvent, est une bastille et nous la détruirons comme l'autre.
Louis-Marie, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Qu'est-ce que vous diriez qui pourrait continuer à donner envie de voir ce film ?
C'est compliqué. Le film vaut d'être vu. Néanmoins, il a quelques défauts au niveau de la cinématographie elle-même.
Alors commencez peut-être juste par les points positifs.
Pourquoi c'est
un chef-d'œuvre avant
c'est le sens, défauts. C'est le sens. Mais c'est-à-dire que malgré tout, il y a des moments extraordinaires et en particulier le final. La montée à l'échafaud, c'est ce qui emporte. Il y a tout. C'est un peu caricatural ce que je dis, d'oublier toute la linéarité, tout ce qui vient au début. Mais à ce moment-là, les deux réalisateurs ont fait preuve de puissance et de force, des gros plans, des nuances, une musique qui s'éteint au fur et à mesure des exécutions, les prises de vue, différents angles. Là, il y a une grande et belle leçon de cinéma, à la fois de cinéma et ce qui rend encore plus fort son sujet. C'est le sujet qui intéressait.
La splendeur des dialogues aussi.
Oui,
c'est...
exactement. Mais qui n'ont pas su mettre assez en relief, mais malgré tout, c'est pour ça que le film vaut d'être vu, c'est la splendeur des dialogues et c'est quand même la façon dont ils arrivent à emporter l'adhésion du spectateur avec ce final extraordinaire.
Alors on va écouter un dernier extrait. C'est donc le commissaire de la Révolution qui est retourné dans le couvent, qui leur a dit à peu près ce que vous avez dit. Bref, elles sont chassées de leur couvent. Et c'est à ce moment-là donc une autre prière, on va dire prière de remplacement, puisque Mère Thérèse de Saint-Augustin est partie pour essayer de trouver une solution pour ses sœurs. Elle est montée jusqu'à Paris pour ses carmélites de Compiègne. Et Mère Marie de l'Incarnation, donc cette autre prière, Jeanne Moreau la jouant à ce dialogue avec ses sœurs.
Au régime impie qui prétend supprimer la religion et disperser les monastères, je pense que la communauté tout entière devrait répondre en prononçant solennellement le vœu du martyr. Pour que la France reste chrétienne, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur sang. Qu'en pensez-vous, mes sœurs ?
L'inconvénient de ces vœux exceptionnels, c'est qu'ils risquent de diviser les esprits et même d'opposer les consciences.
Et cela juste au moment où nous voulons affirmer l'union de notre communauté.
L'opposition d'une seule d'entre vous me ferait renoncer à ce vœu.
Pourquoi ne pas en décider par un vote secret ?
Sœur Anne de Jésus.
Gageons qu'il y aura au moins une voix contre.
Il y a une boule noire. Oublions ce vœu du martyr.
Il s'agit de moi. Voilà ma boule blanche. Mais je me déclare maintenant d'accord avec toutes. Et je désire, je voudrais que vous m'aissiez prononcer ce vœu. Je vous en supplie. Au nom du bon Dieu.
C'est un signe de Dieu que nous soyons toutes d'accord.
Voilà, c'est pas le final de ce film, mais ça en donne le ton. Et c'est vrai qu'après, voilà, on rentre, je trouve, dans une autre séquence du film. C'est un sacré défi que d'arriver à faire entrer dans des moments aussi, aussi délicats et aussi intimes que le martyr. Hein.
Oui, parce qu'il y avait une des carmélites qui était restée cachée. Et qui revient, c'est elle qu'on entend, qui veut, elle, prononcer le vœu du martyr et monter à l'échafaud comme les autres.
Louis-Marie, pour finir, vous vouliez nous parler un petit peu de 2-3 acteurs et on finira là-dessus. Jeanne Moreau, donc, qui joue Mère Marie de l'Incarnation, Pierre Brasseur, le commissaire de la Révolution.
Oui, Jeanne Moreau n'était pas encore l'actrice qu'on allait découvrir, mais là, elle fait preuve, elle sort... C'est le moins qu'on puisse dire, le mieux son épingle du jeu, si on peut dire ça comme ça. C'est elle qu'on voit comme Pierre Brasseur, les dialogues qu'on a entendus, puis il avait une voix, une présence assez extraordinaire. Là, il y avait un grand acteur et une grande actrice en devenir.
Merci beaucoup Louis-Marie Soler. On va rappeler le titre des films, Alice et le maire, c'est donc le film à l'affiche, Nicolas Pariset, Les ailes du désir de Wim Wenders, que je vais me dépêcher d'aller voir, non pas sur grand écran, mais derrière un ordinateur, hélas. Et le dernier film, donc le dialogue des Carmélites, et je vais vous laisser reciter le nom des deux réalisateurs.
Philippe Agostini et Raymond Léopold Brückberger.
Bravo. Merci beaucoup Louis-Marie, rendez-vous est donné donc le mois prochain. Cette fois il y aura Paul Dima et puis on aura vu les films tous autour de ce plateau. Ça sera la vraie rentrée du coup du grand écran. Merci beaucoup Louis-Marie. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.